Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Marie Parmentier qui fait partie du comité scientifique qui a conçu le contenu de l'exposition Fil Bleu à l'hôtel Rennes. Comité scientifique et d'ailleurs qui s'occupe aussi enfin, de tout ce qui est festival Fil Bleu. Festival qui recouvre énormément d'événements autour et du pastel et de l'indigo à Toulouse comme à Albi. Marie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Je ne crois pas avoir fait d'erreur dans ce que je viens de
non,
dire.
Non.
Voilà. Alors Marie Parmentier, vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes spécialiste de l'histoire de la couleur au Japon. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les kimonos, quand on peut en voir, en admirer ou même en voir dans des ouvrages, on est vraiment bluffé par les couleurs, le raffinement, les assortiments de couleurs. Et donc, vous venez nous parler de l'indigo, puisque c'est quand même l'objet de l'exposition Fil Bleu. Vous parliez des vertus de l'indigo, donc il est plein de vertus. On serait tenté maintenant d'y faire appel, ici, dans nos pays. Apparemment, ce n'est pas porté par des gens particuliers. Par exemple, le clergé ne porte pas forcément de bleu.
Non. Pas nécessairement, non.
Donc,
ce n'est pas une couleur prescrite pour le clergé, ni bouddhiste, et pas non plus dans le Shinto. Hein. Non.
Oui, voilà. Et il n'y a aucune couleur qui a un terme qui est assigné à des fonctions, pas particulièrement au Japon.
En termes de bleu ou
Non, d'autres couleurs
Si. Dans le clergé, on peut porter des couleurs spécifiques, mais l'indigo n'en fait pas partie.
D'accord. Alors, justement, quand on parle de la plante de l'indigotier, moi, je dois vous dire, je n'ai jamais vu un indigotier. Je crois qu'on en voit maintenant en France, il paraît que ça commence à se cultiver. Ça, quelle allure ?
Alors, c'est une plante de taille moyenne et qui a des inflorescences roses. Un joli rose, voilà, lorsqu'il fleurit, ouais. Mais on utilise ses feuilles, de toute façon, pour extraire la teinture.
Ces feuilles vertes donnent du bleu.
Absolument, c'est ça, oui.
Bon.
Après oxydation, qui plus est.
D'accord. Oui, oxydation, puis même on ajoute, il y a des mélanges savants, peut-être que vous pourrez nous en dire un mot.
Oui.
Quelle place occupe la couleur dans l'esthétique japonaise ? Par exemple, on dit qu'il y a 48 nuances de brun sans nuances de gris.
Ah oui, alors c'est une très jolie expression qui date de la période d'Edo, donc c'est entre les 16e et 19e siècles, et c'est une période où on commence à avoir une culture bourgeoise qui va éclore, et des gens qui commencent à être un petit peu fortunés vont acquérir des kimonos de couleurs vraiment différentes, et le goût, contrairement à nous, peut-être à l'heure actuelle, se porte sur des couleurs intermédiaires. Donc ça, c'est la caractéristique de cette période-là, c'est que le raffinement extrême est dans la couleur intermédiaire que nous aurions du mal à définir.
Plutôt effacée.
Pas nécessairement, mais on aurait du mal finalement, nous, à dire de quelle teinte elle est. Donc ça serait des marrons qui tirent sur le vert, qui sont un petit peu grisâtres. Voilà. Et on en a une variété vraiment incroyable. Mais c'était aussi un outil marketing, de donner un nom très particulier, de faire croire qu'on avait créé une nouvelle couleur. On la vendait encore mieux.
Oui. Alors on retrouve ça dans les kimonos, donc.
Oui.
Et les couleurs et des formes différentes ?
Alors, ce qu'on appelle kimono à l'heure actuelle, même celui qu'on porte...
Que nous verrons dans une exposition à l'hôtel Rennes, c'est ça ?
Oui, voilà. Absolument. Donc, on en verra plusieurs. Mais ils sont tous taillés, ils ont tous la même coupe. Mmh. Et cette coupe, en réalité, elle s'appelle kosode. Donc, en fait, ça signifie emmanchure courte. Et c'est une coupe qui date...
Qui s'adapte à tout le monde, pardon.
Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Généralement, il n'y a pas nécessairement de taille de kimono. Mmh. Voilà, on l'adapte soi-même, on le retire un petit peu vers le haut, voilà.
Avec le lobby, voilà. Le hobby, je ne sais pas
oui,
si on dit
ça.
Lobby ou le hobby, mais
lobby.
Lobby,
oui, c'est
oui,
ça.
Qui entoure
est la grande ceinture absolument pour fermer le kimono. Et cette coupe est dite kosode, et c'est une coupe qui est très simple, parce qu'avant, les vêtements que l'on portait étaient beaucoup plus larges et beaucoup plus lourds. Et ils étaient également composés de plusieurs couches superposées. On en avait à la période antique, notamment chez les femmes, jusqu'à 12 couches superposées les unes sur les autres. Alors que le cossodé, c'est une seule couche de vêtements.
Alors, c'était pour lutter contre le froid ?
C'était... Alors, bon, il y a toujours plusieurs explications, mais... Il y a certainement ça, quelque part, parce que bon, il devait faire quand même très très froid. L'autre explication, c'était une raison esthétique. Hein.
Mais on était engoncé là-dedans, non ?
Bah, c'était l'esthétique peut-être de l'engoncement. Oui, voilà. Oui. Oh non, enfin, c'était vraiment. On a des représentations souvent de ces costumes-là avec, des camailleux. Donc on a toutes les couches voilà, qui se suivent les unes les autres.
On peut les voir.
Oui, le principe c'est de les voir, précisément, c'est fait
oui,
pour.
D'accord.
Et donc on a une esthétique en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on va avoir l'envers d'une tunique et l'endroit qui n'auront pas la même couleur, et on va en superposer 12, éventuellement de couleurs différentes. Et en fait, le but du jeu c'est de montrer les variations de couleurs, toutes ces combinaisons de couleurs au niveau du col et des emmanchures, et parfois du bas. C'est fait pour,
d'accord.
Voilà. Et en fait, à l'époque, c'était extrêmement rigoureux. Les femmes, on détruisait des femmes parce qu'elles s'étaient trompées de couleur.
Peu importe le volume, finalement, que ça peut donner.
Oui.
Ah oui, comme ça s'était trompé de couleur, c'est intéressant, ça.
Oui, donc on a des récits. Moi, je conseille à tous de lire les notes de chevet de... le Makola no Soshi d'une dame de cour de l'Antiquité
Quel était le titre de cet ouvrage ?
Les notes de chevet. Notes de chevet, en japonais, c'est Makola no Soshi de Seisho Nagon. En fait, c'est la dame de cour qui l'a écrit. Et en fait, elle décrit, c'est un petit journal, et elle décrit ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime, ce qui l'agace le matin. Et elle décrit aussi parfois des scènes de la vie quotidienne ou des choses qu'elle trouve vraiment déplorables. Et parfois, on a, oh là là, telle dame, elle a mis telle couleur, c'est vraiment abominable. Voilà. Elle n'a pas l'âge, elle n'a pas, par exemple, le statut pour le faire. C'était extrêmement difficile, hein, sur le plan des couleurs, de vivre à cette période. Hein.
Ah oui, oui.
Oui, il y avait une étiquette complète de la couleur.
Alors, vous m'avez dit que le bleu n'était pas une couleur symbolique, mais dans le théâtre, il n'y avait pas quelque chose lié au bleu ?
Le bleu est une couleur symbolique, mais pas l'indigo, nécessairement.
Ah, voilà. D'accord.
En fait, je fais la distinction entre la couleur qu'on va obtenir d'une teinture, c'est vraiment... Elle a un aspect concret, le bleu c'est plus conceptuel, on peut avoir différentes symboliques. Pour ce qui est du théâtre, on associe souvent le bleu à quelque chose d'un petit peu négatif quand même, hein, comme les apparitions fantomatiques, ce genre de choses, voilà.
Oui, alors justement on parlait de kimono, moi je reviens encore à ça, plutôt à l'art, parce que je pense qu'on peignait sur les kimonos.
Il existe effectivement une technique qui consistait à appliquer des réserves à l'aide d'un cornet qu'on appelle tsutsugaki, c'est la technique de teinture, littéralement c'est du dessin à l'aide d'un cornet.
Ouais.
Donc on appliquait une colle faite à partir de riz et on créait des motifs de cette manière et ensuite on teignait effectivement le kimono. Et la technique la plus aboutie s'appelle le yuzen. Zomé. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. On a des tableaux magnifiques sur les kimonos. C'était la même technique, mais vraiment extrêmement coûteuse. Oui, voilà. Enfin, il y avait très peu de personnes qui pouvaient l'acquérir. Hein.
Oui. Mais est-ce qu'on utilisait de l'indigo ? Parce que je m'interroge toujours. Moi, j'ai lu que l'indigo changeait. Devenait beau, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on utilisait l'indigo sur des kimonos, par exemple ?
Ah oui. Oui, absolument. Oui, absolument. Après... quand même dans l'aristocratie, un petit peu dans l'élite, je pense à l'époque d'Edo, toujours au 16e, 19e siècle, c'était une couleur qu'on pouvait porter, qui était relativement valorisée, mais si on pouvait se permettre d'acheter carthame du teinturier, c'est-à-dire du rouge, ou bien du grémil, c'est-à-dire du violet, c'est ça qu'on allait choisir. Hein.
Ah oui,
voilà.
C'est mais beaucoup plus chic.
Ah, et beaucoup plus cher. Surtout, c'était si cher que le gouvernement a promulgué des lois somptuaires pour les interdire. Sauf qu'ils ont interdit les teintures et pas les couleurs. Donc, les artisans de l'époque, extrêmement astucieux, se sont mis à produire des couleurs, mais faits à partir d'autres plantes.
D'accord.
Donc, on parle de faux violet, de faux rouge. Voilà.
Mais dites-moi, Marie Parmentier, il me semble que, du coup, pour les jeunes mariés, par exemple, c'était un apport dans la famille, elles arrivaient avec une dot de kimono, par exemple, non ?
Oui, c'est ça, tout à fait, un trousseau complet, avec également des meubles, des nécessaires, à beaucoup de choses. Mais le tissu, effectivement, le trousseau de vêtements était extrêmement valorisé, très coûteux. Hein.
Oui. Alors, je pense que nous allons nous régaler à voir une exposition de kimono, parce que je trouve tous plus beaux que d'autres, avec justement ces nuances de couleurs, avec l'obi qui parfois s'oppose à la couleur même du kimono, enfin s'oppose, mais c'est harmonieux toujours.
Oui, effectivement, on a des codes et des associations de couleurs, ouais, dans les kimonos qui peuvent nous paraître
mais c'est bon,
un petit peu, voilà, curieuses, surprenantes, mais bon, c'est...
Oui,
voilà.
Oui. Est-ce que... Alors, puisque nous parlons d'art, pour terminer, j'aimerais que vous nous parliez en peinture. Est-ce qu'on utilisait ces couleurs ?
Pour l'indigo, effectivement. On utilisait... donc, l'indigo est une teinture, mais on utilisait aussi les résidus de cuves ou de la mousse qui se formait en haut des cuves. Et on en faisait des pigments qu'on utilisait dans les estampes, notamment.
D'accord. Et qui ne bougeaient pas ?
Non, 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 pas spécialement. Non, ça ne... Ah, ça... non, et... non, non, c'est vrai que j'ai des images d'estampes qui sont peut-être relativement récentes, mais c'est vrai que ça tournait vers le vert, hein, à partir d'un certain moment, oui.
Oui, mais remarquez, même nos rouges à nous, qui étaient très beaux, on évoluait avec le temps.
Hein. Oui, oui, c'est ça, absolument, oui.
Oui. Donc, on va voir des kimonos, on va voir des peintures au cours de ce fil bleu à Toulouse ou à Albi.
Oui. C'est ça, tout à fait.
Oui. À quel endroit vous pouvez... Oui. Alors, on regardera. On dira à nos auditeurs toujours de se référer à ce site aux couleurs du monde. Il y a plusieurs endroits, donc on ne va pas tout énumérer. En tout cas, un grand merci. Peut-être avez-vous autre chose à ajouter ? Vous avez plein de choses à ajouter.
J'aurai encore beaucoup de choses à dire, peut-être une prochaine fois.
Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
Merci.